à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale autour du commerce équitable avec deux invités. Alors nous sommes ravis d'accueillir Mélanie Olivier, chargée d'éducation à Échangeons le Monde, et François Legat, bénévole chargé de la communication au sein de la même association. Bonjour Mélanie, bonjour François.
Bonjour.
Bonjour.
Alors dans cette émission, nous allons tenter de dresser un panorama de ce qu'est le commerce équitable. Alors dans un premier temps, nous parlerons de sa définition, de sa visée ou encore des labels existants. Puis dans un second temps, nous nous centrerons sur l'association dont vous êtes membres tous les deux, Échangeons le Monde, et dont la boutique est située au 17 rue Jean Aymar à Gap. Alors, je vous ai très rapidement présenté dans mon introduction. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail, nous expliquer en quoi consistent vos fonctions ?
Oui, bonjour, donc Mélanie Olivier, je suis chargée d'éducation au commerce équitable. Donc je participe à l'organisation au sein de l'association de plusieurs festivals dans l'année, qui sont les festivals alimentaires en octobre, le festival des solidarités en novembre et la quinzaine du commerce équitable en mai. Et donc via ces différentes missions, on peut aborder différentes thématiques. En fait, le festival alimentaire, il est très orienté autour de l'agriculture et de l'alimentation durable. Le festival des solidarités, c'est autour des solidarités, donc c'est il y a plusieurs thématiques qui peuvent être abordées. Cette année, ça va être environnement et droits des peuples. L'année dernière, on a fait quelque chose autour de la filière textile. Donc voilà, en fonction des années, ça change de thématique. Et puis la quinzaine du commerce équitable, c'est pour promouvoir le commerce équitable de façon plus spécifique pendant 15 jours en mai, tous les ans. Et en dehors de ça, je fais des interventions dans les écoles et dans les collèges, lycées, autour du commerce équitable pour montrer un peu comment fonctionne le commerce dominant et comment le commerce équitable peut être une alternative à ce commerce mondialisé.
Oui, donc bonjour, moi c'est François Legat. Comme beaucoup de personnes à la retraite, j'ai du temps et donc je donne de mon temps pour l'association. J'ai rejoint l'association il y a environ un an et demi. Au départ, effectivement, pour intervenir avec Mélanie, notamment dans les collèges, les lycées, pour faire de l'éducation, de la sensibilisation au commerce équitable. Et puis, petit à petit, comme j'ai un passé professionnel dans l'univers de la communication, j'ai été embarqué dans la commission communication de l'association, donc je fais aussi de la communication. Et puis, l'association fonctionne avec un système de gouvernance partagée et une entité qu'on appelle le GAP, qui est le groupe d'animation et de pilotage. Il y a 7 personnes au GAP, 7 coprésidents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un président ou une présidente qui dirige l'association, mais il y a 7 coprésidents qui organisent le fonctionnement de l'association et tout. Les décisions sont prises par le collectif ensuite, donc c'est très démocratique. À la dernière AG de 2023, il y avait une place disponible. Je me suis présenté, j'ai été élu. Donc je suis aussi co-président de l'association maintenant. Donc certaines fois, j'ai pas l'impression d'être à la retraite. C'est beaucoup de travail, tout ça.
Effectivement. Merci pour ces présentations. On va revenir du coup sur le sujet principal de notre émission, le commerce équitable. Alors comment est né ce concept de commerce équitable ?
Le commerce équitable, ses sources sont dans les années 60-70, notamment avec une asso qui s'appelle Oxfam en Grande-Bretagne, qui a créé les premières boutiques du tiers-monde. Le commerce équitable était là au départ effectivement pour soutenir les producteurs des pays du tiers-monde qui sont très touchés souvent par les déséquilibres économiques mondialisés. Et puis si on parle de artisans du monde en soi, on fête les 50 ans cette année, donc c'est en 74 qu'une première boutique artisan du monde a été ouverte à Paris. Au départ, l'acte de naissance, c'est un appel de l'abbé Pierre pour venir en aide au Bangladesh, qui était en proie à la famine à l'époque, en 74 donc, et à la guerre civile. Les racines ont des valeurs très humanistes, très dirigées vers ceux qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de travailler dans la dignité. Et notamment, il y a un concept qui a été créé, lui, en 68, un peu avant la création de l'artisan du monde, c'est « trade, not aid », qui veut dire « du commerce et pas de l'aide ». C'est-à-dire que voilà, on fait pas de charité, on va aider les gens à s'en sortir par leur travail, par la production, et par la reconnaissance de leurs compétences pour qu'ils puissent vivre de façon très digne. Donc les origines du commerce équitable sont là. Et donc dans le commerce équitable, on en reparlera certainement après, mais il y a un prix du producteur qui est fixé par le producteur et accepté par ceux qui achètent. Et ce prix, c'est le juste prix. en fonction de des coûts de production. C'est pas un déséquilibre comme dans le modèle dominant où le plus gros va écraser le petit, le saigner à blanc pour avoir le meilleur prix. Il y a une notion de respect, de transparence des prix, et ça c'est essentiel dans le commerce équitable, cette notion de transparence.
Donc ça ouais, on va y revenir un petit peu plus tard. Alors du coup, est-ce que vous savez comment il s'est développé ensuite ce concept qui était né dans les années 60-70?
En fait, en France, on peut parler de la France, hein, pour Artisans du Monde, dans les années 80, il y avait seulement 17 associations locales. Il y a eu une chute du cours des matières premières, et puis l'arrivée grandissante de la grande distribution sur le marché français, qui va atténuer les relations entre les producteurs et les consommateurs, et qui entraîne une mobilisation croissante des consommateurs, qui s'engagent dans le commerce équitable. Et donc, les associations vont se multiplier. Ce que je veux dire là, c'est que dans les années 80, il y a eu une prise de conscience avec justement l'implantation énorme des grandes surfaces et de la grande distribution. Et donc, la Fédération Artisans du Monde s'est vraiment structurée, créée à ce moment-là.
Ici, en France, c'était la principale organisation qui portait le commerce équitable, c'était Artisans du Monde, donc, à l'époque.
Oui, à l'époque, oui. Alors, Max Avelard est un label qui a beaucoup aussi développé le commerce équitable en France et s'est fait connaître beaucoup, mais on parlera des labels tout à l'heure. Max Avelard est un label qui est pas aussi complet que le label d'Artisans du Monde qui est WFTO.
D'accord. Justement, on commençait à un petit peu entrer dans ce monde du commerce équitable par son historique. On va maintenant parler un peu de ses valeurs, de ses principes fondamentaux. Quels sont-ils et que garantit le commerce équitable aux travailleurs et aux travailleuses?
Alors, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de labels qui garantissent pas tous la même chose, mais de façon générale, le commerce équitable a des bases qui sont communes à tous. Et donc ces bases, c'est les trois piliers déjà du développement durable, que sont le respect de l'environnement, le respect social et une économie durable. Donc si je pars déjà de ce que François avait commencé à évoquer tout à l'heure par rapport à l'économie, c'est déjà des prix justes, donc des prix qui sont basés sur les coûts de production et qui sont négociés de façon équitable entre le producteur et le négociant qui va être relié au consommateur. Le prix équitable, il suit pas exactement les cours du marché. Il est forcément supérieur au cours du marché. Et il y a un effet seuil, en fait. Mm-hmm. Si le prix du marché descend trop, il y a un prix seuil en dessous duquel on peut pas payer le producteur. Donc ça, c'est les prix justes qui sont aussi établis sur des relations longues de négociation entre l'acheteur et le producteur. Ce qui fait que les producteurs peuvent se baser, en fait, sur le fait qu'on achète leurs marchandises pour se projeter dans l'avenir, pour pouvoir investir, pour mettre en œuvre leur activité de façon durable. Ce dont parlait François tout à l'heure aussi, c'est le fait qu'il y a la transparence et la traçabilité des produits qui fait qu'on est sûr que ça appartient bien au commerce équitable. Et une dernière chose, c'est les préfinancements, c'est-à-dire que dans le commerce classique, on a tendance à payer le producteur à 90 jours après la réception de la commande. Alors que dans le commerce équitable, il y a 50% qui est payé à la commande, ou un certain pourcentage, en tout cas de façon générale, c'est 50% qui sont payés à la commande, et 50% à la réception de la commande. C'est-à-dire que les producteurs, ils ont cet argent qu'ils peuvent utiliser ensuite pour tous leurs coûts de production, en fait. Et ça leur permet d'avoir une plus grande flexibilité, en fait, dans leur production. Donc ça, c'est pour l'aspect économique. Sur l'aspect environnemental, c'est le respect de la biodiversité, tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place pour respecter l'environnement. Donc ça va être le recyclage, l'utilisation de matériaux recyclés, même le recyclage de l'eau, le traitement des eaux, enfin, des choses qui nous paraissent peut-être évidentes en France, mais qui sont pas forcément évidentes dans tous les pays, enfin, ou subventionnés en tout cas, ou aidés dans tous les pays. Donc c'est des coûts aussi en plus pour les producteurs, mais du coup, le fait qu'il y ait une prime à l'équitabilité, ça aide les producteurs à avancer dans cette démarche de respect de l'environnement. Et puis après, il y a tout l'aspect social, de respect des normes internationales du droit du travail, donc qui sont des 48 heures de travail maximum par semaine, un salaire minimum qui respecte le salaire minimum au moins qui est en vigueur dans chaque pays, pas de travail des enfants, pas de travail forcé, enfin c'est des choses qui paraissent évidentes mais qui sont pas évidentes dans le commerce classique, quoi. Et ensuite, il y a deux choses en plus, c'est-à-dire c'est l'empowerment, donc le fait que chaque peuple et le droit à sa propre...
La parole.
Oui, c'est ça, à décider par lui-même de ce qu'il veut faire de ses propres actions, en fait. On est beaucoup basé avec Artisans du Monde, mais dans tous les labels, sur le fait qu'il y ait une gouvernance démocratique, que les coopératives elles puissent donner le droit à la parole à chaque personne qui produit. Et par la prime équitable aussi, le fait que qu'il y ait cette prime, ça donne la possibilité à ce qu'il y ait des formations au sein de chaque coopérative pour que chaque producteur puisse s'émanciper. Et le dernier pilier du commerce équitable, c'est l'éducation, la sensibilisation en fait de façon générale pour aller vers un plus grand accès à tous au commerce équitable.
Et j'avais une question peut-être un petit peu naïve, mais concernant l'aspect économique. Comment se fait-il aujourd'hui que les grandes plateformes commerciales traditionnelles n'arrivent pas justement à rémunérer de manière juste leurs producteurs ?
Moi, j'ai travaillé dans le commerce presque toute ma vie, et dans le marketing. Aujourd'hui, c'est que le meilleur gagne, quoi. C'est marche ou crève. Enfin, je le traduis comme ça de façon un peu brutale, mais en fait, quand des grandes surfaces disent qu'elles sont les moins chères, il y a quelqu'un au bout qui paye le prix, quoi. Eux, ils prétendent défendre le consommateur, mais ils écrasent les autres pour pouvoir vendre au meilleur prix. Et souvent, les enseignes de grande surface, ce sont souvent des gens qui sont en franchise, donc ce sont des franchisés, des indépendants. Les mecs, ils roulent en Ferrari, quoi. C'est pas une légende, c'est vrai, ça existe. Le modèle dominant, il est fait comme ça. C'est le plus gros qui mange le plus petit et il n'y a aucun respect. Et comme vient de le dire très bien Mélanie, dans les principes du commerce équitable, il y a cette notion de respect. Le respect de la nature, le respect des hommes, le respect des droits. Et c'est pour ça que notre engagement à nous est très politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est l'organisation du commerce qu'il faut revoir. C'est cette organisation qui est complètement déséquilibrée et qu'il faut réajuster pour la rendre équitable. Et quand on fait prendre conscience de ce qui tourne par rond dans le domaine dominant au public par les actions de sensibilisation que l'on fait, les gens se disent bah oui, forcément au bout du compte, il y en a un qui paye le prix, quoi.
Donc ça rejoint un petit peu ma question suivante, qui était un sujet que nous avions, tu as un petit peu abordé, Mélanie, et que nous avions déjà abordé à l'occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes le 8 mars dernier. En quoi le commerce équitable peut-il être un vecteur de changement social dans les communautés dans lesquelles il est pratiqué ?
On a un bon exemple de producteur avec qui on travaille depuis longtemps à Artisans du Monde. Ce que je disais tout à l'heure, les relations, elles se font dans la durée. Donc Artisans du Monde, ça existe depuis une cinquantaine d'années. Il y a des producteurs avec qui on travaille depuis une cinquantaine d'années. Et donc qui ont commencé à travailler avec cette négociation de prix juste et qui du coup se sont basés sur ces prix justes pour dire aux grandes surfaces ou aux gros négociateurs avec qui ils travaillent dans le commerce conventionnel, ben nous c'est notre prix. Parce que ce prix, il est basé sur nos coûts de production. On négocie pas en dessous de ce prix-là. Et finalement, ça a été un poids pour faire passer le marché conventionnel à ce prix équitable. Donc voilà, c'est un exemple de comment le commerce équitable peut arriver à modifier le commerce conventionnel d'une façon, même si c'est des fois à petite échelle, mais voilà, ça commence à semer des graines.
Mais on le voit aujourd'hui avec la crise des agriculteurs, qui est toujours actuelle, hein. C'est pas parce que le salon de l'agriculture est terminé que la crise n'existe plus. Si les agriculteurs producteurs étaient payés au juste prix, en fonction de leur coût de production, ils seraient pas dans la panade dans laquelle ils sont aujourd'hui. Le fait d'avoir le juste prix rémunéré pour vivre dignement, pour avoir une rémunération socialement acceptable, c'est un des principes forts du commerce équitable. Et du coup, c'est un vecteur de changement, forcément.
Et donc, ceci pourrait constituer aussi une solution parmi d'autres pour amener des changements, notamment au regard de cette crise agricole que nous vivons aujourd'hui en France, mais aussi dans d'autres pays.
Oui, tout à fait. Et on parle de changement, et moi, je parlais de politique, mais le fait aussi que on travaille beaucoup avec des producteurs qui fonctionnent de façon démocratique, en coopérative, ça apporte aussi du changement dans les pays où ils exercent, qui sont... souvent des pays un peu totalitaires. Je crois qu'on l'a déjà dit sur cette antenne, mais les coopératives de femmes commencent à être entendues dans certains pays d'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'elles rapportent de l'argent. Donc finalement, à partir du moment où elles rapportent de l'argent, tiens, on se dit « Ah, finalement, c'est peut-être bien d'avoir des femmes qui travaillent. » Voilà, donc ça peut changer aussi les choses petit à petit, bien sûr. c'est pas la solution avec un grand
S,
c'est une des solutions pour faire évoluer les changements dans le monde, quoi.
Pour compléter ce que disait François par rapport à la gouvernance démocratique, on a reçu la semaine dernière deux producteurs péruviens qui sont venus ici en France pour échanger avec l'ASPAL, donc qui fait partie d'Échangeons le Monde, sur les différents produits qui sont vendus. Et ils nous expliquaient en fait que le fait d'avoir cette gouvernance démocratique, de relier ensemble les différents producteurs, en l'occurrence qui tissent des ponchos, des pulls, un peu de toutes sortes de vêtements. Le fait d'avoir ce lien entre les producteurs, ça leur a permis d'avoir un poids politique plus important en fait, et de pouvoir se faire connaître et faire connaître leurs droits à un niveau plus large que s'ils étaient individuellement en train de tisser de chacun de leur côté dans la montagne, quoi.
Et aujourd'hui, on parlait de l'échelle de ce commerce équitable, justement, des coopératives dans le monde. On est à peu près sur quelle proportion par rapport au commerce traditionnel? Il en existe beaucoup à travers le monde?
Je pourrais pas dire pour de façon générale, mais pour Artisans du Monde, nous on travaille avec une centaine de coopératives, et à chaque fois ces coopératives elles regroupent entre 300 et un millier de personnes.
Oui, ce sont déjà des grandes entités quand même. Et quel type de produits on va trouver en général dans les boutiques qui pratiquent le commerce équitable?
Alors, on va trouver des produits très variés alimentaires, des produits comme du riz, du quinoa, du café, du thé, du chocolat. On trouve aussi des produits d'artisanat, des produits comme des objets de déco, des instruments de musique, des vêtements. En fait, on a des producteurs partout dans le monde avec beaucoup de produits différents. Et nous, à Échangeons le Monde, on essaie... Alors, pour les produits alimentaires, on prend les produits courants, mais pour les produits d'artisanat, on essaie de choisir des belles choses. Et si vous venez, et si vous passez 17 rue Jean-Aymar, vous verrez que notre vitrine, souvent, est composée de très beaux vêtements, de belles statuettes en bronze, de beaux bijoux issus du commerce équitable. Donc, on va pas vendre des produits bas de gamme, quoi. On essaie d'avoir des produits jolis. Si vous avez des cadeaux à faire, par exemple, on préfère offrir quelque chose de beau à des prix qui sont pas forcément excessifs. Très souvent, quand on a besoin d'un petit cadeau, ça peut être très sympa d'acheter un bijou, et c'est pas forcément plus coûteux qu'un bijou dans le commerce classique.
Alors, merci beaucoup François. On va faire une première pause musicale avec un morceau tout en douceur. Il s'intitule Enguisumba. Il est interprété par l'artiste Mario Rui Silva et il est extrait de la compilation Stories from Another Time 1982-1988, paru en 2021.
Cause I got that, cause I got that, cause I got that. ima yo so ingi mona isuma ima yo so ingi mona isuma ima yo so ingi mona isuma ima yo so ingi mona zumba zumbi zumba zumbi ukonda diatu kale mungongo dwa tanda kanya zumba zumbi zumba zumbi mukonda diatu kale mungongo dwa tanda kanya kuzangata kukwateze kuzangata kukwateze kuzangata kukwateze kuzangata kukwateze gisumba ima yo so ingi mona gisumba ima yo so Isumba ima yo so ingi mona Isumba ima yo so ingi mona Zumba zumbi Zumba zumbi Mukonda diatu kale Mungongo dwa tanda kanya Zumba zumbi Zumba zumbi Mukonda diatu kale Mungongo dwa tanda kanya Kuzangata kukwaeze Kuzangata kukwaeze Kuzangata kukwaeze Kuzangata kukwaeze
Toujours sur Fréquence Mistral, nous venons d'écouter le morceau Ngisumba par l'artiste angolais Mario Ruiz Silva. Nous sommes toujours avec Mélanie Olivier et François Legat d'Échangeons le Monde. Alors, juste avant la pause musicale, nous abordions les enjeux et les principes qui régissent le commerce équitable. Nous allons maintenant parler des labels. Alors, il en existe plusieurs, même une multitude. Alors, nous allons voir quelles garanties ils offrent et comment ils sont contrôlés. Alors, ma première question déjà, c'est quel label existe-t-il ? Et comment garantissent-ils l'aspect équitable de la fabrication des produits ?
Alors, il existe... on pourrait dire une multitude de labels de commerce équitable. En tout cas, il en existe un certain nombre. Peut-être la première distinction qu'on peut faire, c'est les labels Nord-Sud et les labels Nord-Nord. Parce qu'il y a eu, depuis une dizaine d'années, l'explosion, enfin, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, une forte augmentation des produits du commerce équitable en France. Et donc, il y a eu beaucoup de labels qui ont été créés pour garantir l'équitabilité en France. Donc je vais commencer par cela. Il y a le label Agri-Éthique France, qui est un label qui est assez utilisé dans tout ce qui est boulangerie, certification de la farine équitable. Et ensuite, il y a des labels qui font le lien entre bio et équitable en France. Donc c'est entre autres le label bio équitable en France. Le label agri-équitable français biologique. Et puis après, il y a les labels, il y a aussi le label équitable bio et biopartenaire, qui est un label à la fois français et à la fois international. Et puis il y a les labels qui sont spécifiques au commerce nord-sud. Donc il y a le label Max Avelar que beaucoup de monde connaît parce qu'il est assez diffusé en grande surface. Il y a le label d'Artisans du Monde qui est le label WFTO, donc World Fair Trade Organization. Et il y a le label Producteur Paysan, SPP, qui est un label de qui garantit en fait le fait que les produits viennent de petites fermes familiales et qui a été créé en Amérique du Sud, maintenant qui se diffuse un peu partout dans le monde, mais en tout cas toujours avec cette vocation à être de petites unités de transformation. Et il y a le label Fair for Life, qui est aussi un label à plus grande échelle, un peu plus comme Max Avelar, même s'il a même pas le même poids. Voilà. La grande différence qu'on peut faire entre ces labels, c'est entre autres avec le label WFTO, c'est que le label WFTO, c'est un label de filière, donc qui certifie chaque maillon de la filière comme étant un organisme équitable. Alors que, par exemple, le label Max Avelar, c'est un label produit qui certifie le produit en tant que tel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a une loi qui va être promulguée a priori en 2024. On attend sa promulgation pour qu'il y ait une liste en fait de labels équitables qui soit établie et qui soit validée au niveau français.
Et justement, je me posais la question sur des gros labels comme Max Havelaar par exemple. Est-ce que ces labels-là sont toujours fiables? Comment est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce qu'il existe des organismes qui vont contrôler aussi le bon déroulement des opérations derrière?
Oui, pour tout label, il y a forcément des contrôles qui sont liés au périmètre du label. Donc, comme vient de le dire Mélanie, Max Havelaar, c'est un label de production, donc ils vont contrôler les producteurs. En revanche, le transport, on ne sait pas. C'est pas un label qui vérifie toute la chaîne. WFTO va vérifier toute la chaîne. Avec, comme dans tout label, il y a des contrôleurs qui viennent une fois par an pour voir si les principes sont respectés. Un label, c'est forcément un outil de confiance vis-à-vis du consommateur. Aucun label aujourd'hui ne pourrait se permettre de ne pas contrôler et perdrait du coup la confiance des consommateurs.
Et on en parle un petit peu juste avant, les échanges nord-sud, c'est ceux qu'on évoque le plus souvent quand on parle de commerce équitable, mais est-ce qu'il existe aussi des labels nord-nord? Est-ce qu'il y a un commerce équitable qui se développe de plus en plus au niveau nord-nord?
Oui, c'est vraiment au niveau français en tout cas, c'est en plein essor depuis une dizaine d'années, notamment sur la filière farine, mais aussi sur le lait. C'est des labels qui sont de plus en plus utilisés parce que en fait finalement les problématiques sont les mêmes et se recoupent quoi. Ça permet des garanties pour les producteurs que ce soit au nord comme au sud. Ça historiquement le commerce équitable est né en lien avec la production nord-sud, la production plutôt au sud et la consommation plutôt au nord, mais finalement ça correspond à des valeurs qui sont importantes à toutes les échelles.
Alors, il y a des produits qu'on n'a pas en France et dont on peut pas se passer. Je pense au café, au chocolat, au cacao. Et puis il y a des produits qu'on a en France pour lesquels la production n'est pas suffisamment importante par rapport à la demande en France. Je pense au riz, par exemple. Donc on a des produits qu'on est obligé d'aller chercher à l'autre bout du monde aussi. Donc prendre du chocolat et du cacao en commerce équitable, on est sûr que ce sont pas des enfants qui ont travaillé pour cultiver le cacao. On est sûr que les personnes qui ont contribué à la production de ce chocolat vivent dignement. Enfin voilà, tous les principes du commerce équitable. Et ça, c'est un produit qui n'est pas cultivé ici. Mmh. Même si on fait des tests sur plein de choses, hein, je sais que dans la région, il y a des gens qui essayent de cultiver du quinoa. Mais c'est chouette hein, de faire ça. Il y a des produits voilà, comme le café ou le thé, c'est difficile.
Ces labels, c'est au final une garantie pour les consommateurs qui vont acheter quelque chose qui peut être aussi une alternative viable et vertueuse.
Après, il faut voir dans chaque diversité de labels, en fait... qu'est-ce que chacun apporte? Ce que je disais sur SPP, c'est que ça apporte la garantie que les producteurs soient organisés sur des petites fermes, sur des petites unités. Et c'est un peu ce qu'on soutient aussi avec WFTO, avec Artisans du Monde. C'est le fait qu'il y ait une diversité de cultures. Par exemple, si on parle de produits alimentaires, une diversité de cultures au sein d'une seule et même ferme, ce qui permet une rotation de culture, ce qui permet d'éviter l'épuisement des sols et donc de devoir déforester pour aller chercher plus loin. Enfin voilà, c'est tout un système en fait qui est repensé pour la durabilité autant environnementale que sociale.
Et on le disait juste avant, comme il y a beaucoup, une multitude de labels, les consommateurs peuvent aller se renseigner là-dessus. Il y a des sous-sites, des sites un peu ressources qui permettent d'aller chercher de l'information.
Bah, ils viennent chez nous à la boutique, on a un petit livret sur les labels qu'on pourra distribuer, dans lequel ils pourront voir de façon très détaillée tout ce que font les labels.
Et ben on les invite alors à se rendre au 17 rue Jean-Humard pour aller découvrir la boutique dont on va parler juste après la seconde pause musicale. Donc pour cette pause, nous allons écouter un morceau plein de fraîcheur puisqu'il est sorti au début du mois de mars. Il s'agit d'une collaboration entre l'artiste sénégalais Lass et le chanteur multi-instrumentiste David Walters. Le morceau s'intitule Rano.
Tu me manques vraiment. casa yo lo la manesu.
La nouvelle pépite printanière et dansante de Lass et David Walters intitulée Rano. Nous sommes de retour sur Fréquence Mistral avec Mélanie Olivier et François Legat de l'association Échangeons le Monde. Alors nous allons maintenant revenir un peu plus sur le territoire haut-alpin puisque nous allons parler d'Échangeons le Monde. Donc cette association, par qui et quand a-t-elle été créée ?
Je suis pas originaire de la région, mais on m'a raconté un peu l'histoire d'Échangeons le Monde. Dans les années 80, il y a un monsieur qui est décédé maintenant, qui s'appelait André Pellegrin, qui habitait dans le Champsaur, qui a fait son service militaire en coopération au Pérou. Et il a rencontré là-bas des paysans, des artisans, des producteurs locaux. Et il s'est rendu compte que ces personnes avaient besoin de soutien et de reconnaissance de leur savoir-faire pour vivre dignement. Et donc, il est revenu en France et il a créé une association qui s'appelle Association de Solidarité avec les peuples d'Amérique latine, l'ASPAL. Et cette association a importé des produits du Pérou et ils ont vendu leur, enfin l'association a vendu ses produits sur les marchés, souvent l'été auprès des touristes de la région. Parallèlement à ça, il y a une autre association qui est née un petit peu plus tard, dans les années 90, qui s'appelait l'Espoir des Arbres, qui était une association qui récupérait du papier parce que à l'époque, les collectivités locales ne s'occupaient pas de la récupération du papier et donc récupéraient du papier dans les entreprises pour en faire des articles de papier recyclé. Et cette association a créé une boutique d'articles faits en papier recyclé. Et les deux se sont rejoints, en fait, l'ASPAL et l'Espoir des Arbres, pour créer en 2002 Échangeons le Monde, dans une boutique plus grande que la petite boutique qu'avait l'Espoir des Arbres, qui est donc, on l'a dit déjà plusieurs fois, située 17 rue Jean-Aymar maintenant. Et donc, dans cette boutique, l'Espoir des Arbres, en fait, s'est affilié à Artisans du Monde, donc à la Fédération Artisans du Monde. Échangeons le Monde est une association locale de cette fédération. Et donc, les produits qui sont vendus sont à la fois des produits d'Artisans du Monde et des produits de l'ASPAL. Voilà. Donc, vous pouvez, dans notre boutique, trouver des produits Artisans du Monde que nous achetons au travers d'une centrale d'achat qui s'appelle Solidarmonde, qui fait partie du collectif, on va dire, Artisans du Monde, et des produits de l'ASPAL. Et les Péruviens qui ont été reçus la semaine dernière, dont parlait Mélanie tout à l'heure, sont des producteurs de l'ASPAL. Ils sont venus nous voir. On est allé dans une classe de prépa d'espagnol et ils ont pu, les étudiants ont pu échanger en espagnol avec nos producteurs. Voilà. Le genre de choses que l'on fait pour sensibiliser le public et les étudiants au commerce équitable.
On va y revenir un petit peu plus tard. On parlait de l'historique. Quelles ont été aussi les motivations qui les ont amenés à créer ce projet-là?
Je pense qu'il y a et je le vois au travers des gens que je côtoie dans l'association, il y a des valeurs communes, des valeurs très, très humanistes, hein, d'ouverture vers l'autre. Des valeurs de transparence, d'équilibre des relations. Je pense que c'est autour de ces valeurs que les gens se sont retrouvés. Il n'est pas rare de croiser à Échangeons le Monde des bénévoles qui sont aussi bénévoles dans d'autres associations, oui. Comme le Secours Populaire, comme le Secours Catholique, comme la CIMAD, comme Amnesty International. Donc des gens qui sont sensibles à l'organisation politique de notre société et qui font en sorte que les plus faibles puissent vivre dignement. Et la reconnaissance du savoir-faire des autres et leur apporter des solutions pour vivre dignement, je crois que c'est ces valeurs-là qui nous rassemblent, en fait.
Mélanie, tu as quelque chose à ajouter?
Oui, c'est par rapport au fait d'aider les plus faibles.
Apporter un soutien.
Apporter un soutien, c'est... Il y a aussi le fait de changer de façon de consommer. C'est non pas appuyer les plus faibles, mais arrêter de détruire leur façon de fonctionner de façon radicale par nos achats, en fait.
Et on parlait donc de ces valeurs de l'association. Aujourd'hui, comment elle fonctionne, cette association?
Alors justement, on a un principe de gouvernance partagée. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à l'entreprise libérée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas une personne qui décide pour tout le monde. Et donc, en fait, c'est un fonctionnement très horizontal. On fonctionne avec des commissions qui sont spécialisés sur certains sujets. Donc on a une commission éducation, on a une commission communication, une commission pour tout ce qui est finance, bien sûr. On a une commission pour tout ce qui est achat alimentaire, une commission artisanat. Et donc les bénévoles, en fonction de leurs envies ou de leurs compétences, s'intègrent dans ces commissions. Alors à chaque commission, il y a un référent qui n'est pas le patron de la commission, mais qui est celui qui va animer, qui va faire en sorte que voilà, des choses émergent, les débats émergent, etc. Donc ces commissions sont pilotées, entre guillemets, par groupe d'animation de pilotage dont je parlais tout à l'heure, avec les sept coprésidents. Et tous les mois, nous avons une réunion du collectif d'animation, c'est-à-dire tous les bénévoles qui sont adhérents et engagés dans l'association viennent tous les mois discuter des différents sujets, des différents projets que nous avons. On essaie de trouver un consensus à chaque fois qu'il y a un sujet, ou alors on vote carrément pour pouvoir décider de façon collective et démocratique. Donc c'est ça évite les tensions, ça fait appel aux compétences de chacun. Et chacun donne de son temps comme il peut, puisque on est quand même bénévole, donc on a aussi des familles, on a aussi une vie à côté, d'autres choses à faire, mais voilà, on donne ce qu'on peut, quand on peut. Et on est toujours à la recherche de bénévoles, d'ailleurs, je lance un appel pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Ils viennent nous voir aussi à la boutique, et on peut voir ensemble comment intégrer ces nouveaux bénévoles dans une ou plusieurs commissions, s'ils le souhaitent. Alors, on a aussi pas mal de bénévoles qui tiennent la boutique. La boutique, c'est quand même le vaisseau amiral de l'organisation, puisque c'est là où on vend les produits, et donc ça nous permet effectivement de gagner de l'argent, de payer une salariée, pas uniquement les dons des adhérents qui nous permet de vivre. La vente de ces produits nous permet aussi de mener toutes les actions qu'on a évoquées précédemment.
Donc là, actuellement, Mélanie, tu es seule salariée dans l'association.
Oui, c'est ça.
Et vous avez combien de bénévoles à peu près?
Des bénévoles engagés, une trentaine. Mais sinon, des adhérents, on a...
Une cinquantaine d'adhérents. Ouais.
Donc on relaie l'appel, hein, si, chères auditrices et auditeurs, vous souhaitez rejoindre... Échangeons le Monde, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas à aller les retrouver à leur boutique. Chez Échangeons le Monde, on disait un peu plus tôt, vous êtes assez, même très actifs. Donc vous proposez plusieurs temps forts durant l'année autour du commerce équitable, de ses enjeux, tout ça notamment lors de festivals. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces temps forts?
Je vais peut-être commencer par le Festival Alimentaire, qui est un festival de films documentaires tous les ans entre mi-octobre et fin novembre. Autour de l'agriculture et de l'alimentation durable. Donc, c'est des films qui montrent en même temps les problématiques liées à l'agriculture et en même temps qui cherchent à chaque fois à montrer des solutions qui existent, que ce soit localement ou ailleurs dans le monde. C'est un festival qui est en partenariat avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Et donc il y a des problématiques partagées qui les films visent à montrer les interactions entre les enjeux locaux et internationaux. Ensuite, il y a le Festival de solidarité qui a lieu en novembre autour de toutes les thématiques de solidarité qui puissent exister. Il y a une thématique nationale, mais après chaque association locale qui organise peut montrer une thématique plus spécifique en fonction de ses envies. Nous, au niveau de GAP, on l'organise en partenariat avec plusieurs autres associations. Et donc l'année dernière, c'était sur la filière textile et cette année, ça va être sur environnement et droits des peuples. Et puis ensuite, du coup, il y a la quinzaine du commerce équitable en mai qui sert à promouvoir toutes les initiatives de commerce équitable qui puissent exister, que ce soit au niveau local ou au niveau global. Et justement, la thématique de cette année, c'est ces valeurs qui nous relient. Donc c'est le fait de bien voir que en fait le commerce équitable, il n'est pas là uniquement pour faire le lien entre les achats nord-sud, mais qu'il y a des valeurs, que ce soit au niveau environnemental, social, la fixation des prix justes, la gestion démocratique, le fait que chacun puisse avoir droit à la parole. Tout ça, c'est des valeurs qui sont importantes, qu'on soit au sud ou au nord.
Il y a aussi, en plus de ces temps forts, tous ces moments dont on avait déjà un petit peu parlé, les trottoirs de LM, les ventes extérieures aussi.
Oui, effectivement, chaque mois, on ouvre la boutique à l'extérieur, sur le trottoir devant notre boutique. Soit on met en avant des producteurs, soit on met en avant des associations locales. Et en fait, c'est l'occasion de se rencontrer, c'est plutôt un moment d'échange, de partage. On offre le café, le chocolat chaud, certaines fois le vin chaud, quand il fait très froid. C'est des moments de discussion, de partage. Et on a fait venir, par exemple, Histoire de Biscuit, qui est installée à Chorges, hein, et qui soutient des femmes qui ont vécu des violences ignobles. On a aussi ouvert notre trottoir, je vais dire ça comme ça, à la CIMAD, au moment de la loi sur l'immigration. On fait aussi la présentation de certains producteurs à des moments clés. Bon, on a fait quelque chose sur le chocolat, je crois que c'était samedi dernier. Donc voilà, régulièrement, tous les mois, on crée un petit événement. C'est important pour nous, et il y a cette notion, le mot de solidarité, on l'a prononcé plusieurs fois. Cette notion de solidarité est importante, ça fait partie aussi des valeurs qui nous rassemblent. Par exemple, vous pourrez, si vous venez à la boutique, croiser des personnes qui apprennent le français, qui sont des migrants, qui n'ont pas forcément de papier d'ailleurs, ce sont des gens qui cherchent à renforcer leur maîtrise de la langue française et qui viennent à la boutique pour rencontrer des gens, pour avoir du lien social aussi. Et donc voilà, cette solidarité, elle est partout dans l'association, quoi. Ça fait partie vraiment des valeurs importantes pour nous.
Donc là, prochain rendez-vous, ce sera la quinzaine du commerce équitable. Donc
oui.
On va bientôt en parler dans une autre émission. Pour finir, vous avez aussi des actions en milieu éducatif.
On fait des interventions assez régulièrement avec les collèges et les lycées du secteur de GAP autour du commerce équitable, autour de l'agriculture, autour du textile. On peut aussi faire des interventions autour des smartphones, enfin de la consommation. En fait, quel que soit le type de consommation, c'est comment on a l'habitude de consommer de façon générale et les impacts que ça peut avoir au niveau global sur les populations, sur l'environnement. Et donc, quelles sont les solutions? On a l'habitude d'intervenir sous forme de jeu, en fait, où les jeux montrent les problématiques. Et puis après, il y a toute une réflexion, un débat autour de comment on peut consommer autrement pour avoir un impact plus positif sur l'environnement et sur les sociétés.
Ouais, ce que je voudrais préciser, c'est que la Fédération Artisans du Monde est agréée par le ministère de l'Éducation pour faire ses interventions dans les établissements scolaires. Voilà. Et donc ces animations sont faites dans ce cadre-là. Alors ça peut être des animations récurrentes, mais ça peut être des animations ponctuelles. Là aussi, je lance un appel aux enseignants qui nous écoutent. Si vous êtes intéressés pour une intervention, ben, contactez-nous, contactez Mélanie.
Et justement, quels sont les moyens de vous contacter?
Moi, je peux donner mon adresse mail. C'est pour la partie éducation, en tout cas, l'adresse mail, c'est education.elm@free.fr. Voilà.
Un site internet aussi.
Oui, l'adresse du site internet, c'est tout en minuscule, sans accent bien sûr, échangeonslemonde.free.fr. Voilà.
Bien, nous allons terminer là-dessus. Merci François Legat et Mélanie Olivier pour ce temps d'échange riche et ce panorama assez complet commerce équitable. On va se retrouver le mois prochain, pardon, dans un autre programme de Fréquence Mistral, Locaux du Bio, où vous viendrez notamment nous parler de la quinzaine des Vous viendrez notamment nous parler de la quinzaine du commerce équitable. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.